Donc on est heureux, on a l'honneur d'avoir avec nous ce soir notre ami Jérémy Berrelli, qui m'avait dit il y a quelques mois, il était là. Je lui ai dit, ça se fait pas, tu viens à Paris, tu viens pas à Montrouge. Bon, il m'a dit, cette fois-ci il est venu, dès qu'il savait qu'il venait, il m'a appelé. Bon, Hachem, on a essayé d'organiser et je voulais vraiment le remercier. Ceux qui le connaissent, le connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, il va faire un petit. Il va, voilà, il va vous dire quelques mots avant de commencer et on laisse la parole. Razak à tous d'être venus, Razak.
Bonsoir à tous. Ah, je dois. Excusez-moi. Non, ça marche pas.
Non,
ça marche pas. Allô, allô.
Ouais, on m'entend bien.
Très bien. Bonsoir à tous. Donc, Jérémy Berrelli, j'ai ce soir 39 ans. Merci. Yom Yerushalayim, mon anniversaire. Donc voilà, je suis pas avec ma famille, mais. Pardon? Ouais, c'est ça, voilà. J'ai encore 6 mois pour dépasser Macron. Donc moi, en fait, je suis un enfant des écoles juives de Paris, de France. J'ai fait ma scolarité à Or-Yosef, dans le 19e arrondissement, jusqu'en 3e. Ensuite, j'ai été à Maïmonide les 3 dernières années. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1994, avant tout le monde, j'ai découvert Internet par concours de circonstances. Et j'ai commencé à me connecter sur Internet. C'était à cette époque-là, on payait 80 francs l'heure de connexion. Donc ça voulait 12, 13 euros par heure pour être connecté. Donc on se connectait 4 heures par mois, on se connectait quelques secondes et on téléchargeait 3 trucs et on partait. Et en général, on ne téléchargeait pas des images, il n'y avait pas de site Internet, etc. C'était uniquement des discussions. On avait des discussions avec d'autres gens. Et donc j'avais parti des tout premiers connectés à Internet en France, j'avais 16 ans. Et j'ai commencé immédiatement à travailler donc sur Internet en étant responsable de forums, de discussions. À l'époque, tout fonctionnait autour des forums. Et en même temps, de devenir pigiste pour la presse informatique où, en fait, j'étais le monsieur Internet qui écrivait des articles pour expliquer ce qu'était Internet. Donc ça a démarré comme ça. J'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'écris les journaux pendant mes cours à l'école. J'étais en train d'écrire mes articles. 3 jours après, ça passait dans les magazines. C'était un peu une histoire folle. Surtout que moi, mon rêve d'enfant, c'était de devenir journaliste informatique. Et je voulais, en fait, travailler dans la presse informatique et tester des jeux vidéo toute la journée. Et là, voilà, je commençais à faire exactement ce qui me plaisait. Et au fur et à mesure, les choses avancent. Je commence à travailler pour la chaîne CNN américaine, où, en fait, je deviens responsable de leur forum français. Ils n'ont jamais su mon âge. D'accord? Ils ne savaient pas que j'avais 17 ans. Et je gérais, en fait, les forums de discussion français de la chaîne CNN. Et à l'époque, c'était pendant les essais nucléaires de Jacques Chirac. C'était le feu. C'était les Américains qui commençaient à détester les Français. Ils disaient, vous allez détruire le monde, etc. Et là, moi, j'étais là, en plein devant, à être le modérateur de tout ça, de toutes les discussions. Pendant mon année de terminale, là, j'ai commencé, en fait, un peu à douter. Où est-ce que je vais? Est-ce que je vais, quelles études je vais faire? Puisque à ce moment-là, je pensais faire des études. Et au fur et à mesure, à un moment, je commence à dire à mes parents, maman, regardez, je fais exactement le boulot qui me plaît. Il y a plein de demandes, plein de gens veulent bosser avec moi, on veut me recruter. Est-ce que je passe mon bac? Et là, mon père, il dit, fais ce que tu veux. Et ma mère me dit, regarde, t'es à la fin, passe-le. Si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as pas, tant pis. Et ça, ça a été absolument génial parce qu'en fait, je me rappelle de cette discussion, je me rappellerai toute ma vie. Parce qu'en fait, j'ai eu un feu vert de mes parents et une confiance absolue sur les choix que j'allais faire dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, on est papa d'adolescent, etc. Je peux vous dire que ça a énormément marqué. Et là, donc, j'ai continué ma scolarité. Mais effectivement, j'étais encore en train de douter. Tous mes amis étaient en train de préparer leurs études, etc. Et moi, je disais, mais je dois sans doute faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et un jour, on se retrouve au lycée, et donc le matin, le professeur nous dit, voilà, nous avons une surprise pour vous, chers élèves, nous avons organisé cet après-midi, vous n'allez pas avoir cours, on a invité des parents d'élèves de plusieurs métiers, de plusieurs professions, plein de parents, un médecin, un pompier, un philosophe, un psychologue, un je sais pas quoi, plein de parents, chacun représentant un métier, vous allez pouvoir leur parler et aller leur demander des conseils. Moi, j'écoute ça, je dis, waouh, c'est génial, c'est une super idée. Et franchement, c'est une super idée. Et à recommander au lycée de vos enfants. Et là, j'ai un ami qui est là, un jeune qui lève la main, me fait, monsieur, on est obligé de rester? Bon, vous savez, les jeunes, un peu rebelles. Et il dit, vous savez, on a fait ça pour vous, nous, les études, on a fait, faites ce que vous voulez. Et là, en fait, c'était un de mes meilleurs amis, et voilà, en bande de copains, je me mets à suivre le groupe qui décide de partir de l'école. Et j'avance, je quitte l'école, je ne vais pas rester à ce projet-là. J'avance, je vais au bout de la rue, je descends dans le métro, et je rentre dans le métro, et à un moment, pendant que ça sonne, la sonnerie, j'ai un flash comme ça, et j'ai une main qui me tire et qui me dit, Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je suis ressorti de ce métro. Et ce qui est important, c'est là, en fait, je suis remonté, c'est là que j'ai rencontré d'abord Ruth Elkrief, la journaliste d'aujourd'hui, qui faisait partie de ces parents-là, et à qui j'ai posé la question, regardez, je suis journaliste informatique, quelles études je dois faire? Elle me dit, fais Sciences Po. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, tous les journalistes font Sciences Po. Alors, je peux vous dire que là, ça n'a pas plu du tout comme réponse. Et après, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean Guetta, qui était le fondateur de Sahari, ici, société de logiciels de comptabilité, et qui venait de revendre en fait sa société Sahari à un groupe, au groupe Sage. Donc aujourd'hui, vous voyez sur le périph' les gros logos Sage. En fait, c'est la société Sahari qui était derrière, avec d'autres sociétés qu'ils ont rachetées après. Et c'était quelqu'un de très pratiquant. Et à la fois très pratiquant, de quelqu'un de très successful dans le monde des affaires, et quelqu'un de très simple, d'une simplicité absolument infinie, une modestie, vraiment la Anava pure. Et donc j'ai été le voir, il m'a donné sa carte, il m'a dit Jérémy, regarde, c'est très intéressant ce que tu fais, viens me voir. Et j'ai été le voir chez lui quelques jours après, et il m'a dit, voilà, Jérémy, tu sais, moi, j'ai fait Centrale, mais au final, les entrepreneurs de la tech, la plupart, ils n'ont pas fait grand-chose comme études, etc. Ils sont rentrés très vite et ont monté leur boîte. Donc, si tu sens que tu as la possibilité de rentrer dans ce monde du travail, rentre dans ce monde du travail. Et je suis à ta disposition. Et donc, à la fois, cette personne-là m'avait encouragé et j'avais enfin quelqu'un avec qui parler de professionnel qui était vraiment du milieu dans lequel je voulais être. Et en plus, j'ai eu la première fois, j'ai été vraiment en contact avec un homme d'affaires qui était un homme d'affaires religieux, pratiquant, et qui était à la fois religieux et pratiquant, évidemment, quelqu'un un entrepreneur à succès. Et en fait, on arrive au sujet de ce soir. Donc, en fait, cette personne-là est devenue mon mentor jusqu'à aujourd'hui, est devenue mon associé. Voilà, on a fondé plusieurs sociétés ensemble. Aujourd'hui, il est installé à Yerushalayim. Et en fait, le vrai sujet de ce soir, c'est de se dire, finalement, dans le monde juif, il y a eu en fait, au cours des 200 dernières années, il y a eu en fait une sorte de boulet que les juifs ont traîné, qui est effectivement leur judaïsme. C'est finalement, quand on sort à l'extérieur, quand on est au boulot, quand on est en rendez-vous, quand on va voir n'importe qui, finalement, on essaie de cacher au maximum notre religion, notre pratique, etc. Et au final, moi, à titre personnel, ayant vu donc quelques exemples, enfin, j'avais donc cet ami-là, plus ensuite d'autres et d'autres qui m'a fait rencontrer, puisque finalement, voilà, il y en a d'autres, certains sont ici. À ce moment-là, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait effectivement un judaïsme à vivre dans un monde professionnel et un judaïsme à vivre de manière positive. De manière positive. Le grand mythe de notre époque, c'est de penser que la pratique de judaïsme, c'est une pratique religieuse pure. C'est-à-dire que ce qui est important dans le judaïsme, c'est la kashrout, c'est les tfilines, c'est le shabbat, c'est les fêtes, c'est Hanouka, etc., etc. C'est de venir à la synagogue prier, etc. Évidemment, c'est super important, évidemment que c'est crucial, évidemment, c'est obligatoire d'avoir toute cette base-là. Ce sont appelés les mitzvot qui s'appellent Ben Adam Lamakom, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu, entre l'homme et Hachem. Ça font partie d'un grand bloc qui s'appelle les mitzvot Ben Adam Lamakom. Et en fait, quand on commence à étudier, on se rend compte que la Torah ne parle pas que de mitzvot comme ça, ne parle pas que de fêtes, ne parle pas que de mitzvot Ben Adam Lamakom. Évidemment, elle parle aussi des sacrifices, de toutes les lois qui. Il y a beaucoup, le Chumash Vayikra est rempli de lois qui concernent le temps du temple. Aujourd'hui, malheureusement, ne nous concerne pas pour l'instant, même s'il y a une mitzvah de les étudier, évidemment. Et il y a, par contre, énormément de lois qui traitent de la relation Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire entre l'homme et son prochain, et l'homme et une autre personne. Et la Chavero, Ben Adam, les relations Ben Adam la Chavero, ce n'est pas uniquement les relations entre juifs, c'est aussi les relations avec n'importe quel homme. D'accord? Les relations avec n'importe quel homme. Et en fait, dans le judaïsme, on peut se dire, moi, quand on me pose la question, on me dit, comment tu arrives à concilier ta vie professionnelle et ta vie juive? Et je lui dis, mais moi, je vis ma vie juive, je vis mon judaïsme dans ma vie professionnelle. Puisqu'à chaque moment de ma vie professionnelle, j'ai des épreuves, je dois choisir entre accomplir une mitzvah ou l'enfreindre. Et on va en parler, on va donner des exemples ce soir. Le Talmud traite dans trois gros volumes, parmi le Talmud, qui sont les plus gros, Baba Batra, Baba Kama, Baba Metzia, traite des lois concernant justement le monde des affaires. C'est quoi le monde des affaires? C'est pas uniquement le business, comme on dit. C'est aussi, je vais chez l'épicier, je vais acheter quelque chose. Moi, personnellement, moi qui suis l'acheteur, j'ai des lois à respecter, et on va en parler. Et l'épicier, évidemment, a des lois à respecter. D'accord? Je ne parle pas, évidemment, il y a des histoires de mensonges, mais aussi à quel prix j'ai le droit d'acheter, à quel prix il a le droit de me vendre, etc., etc. Ces lois-là sont incluses, effectivement, dans ces baba metia, baba batra, etc., et sont complètement traitées et tirées, évidemment, de la Torah. De la Gemara, ensuite est tiré le Shulchan Aruch, donc qui est notre code de loi, le code de la juive, et là, le Shulchan Aruch est divisé en quatre parties, dont l'une des parties s'appelle Choshen Mishpat, et Choshen Mishpat inclut uniquement des lois entre l'homme et son prochain. Et les lois de l'homme entre son prochain, c'est extrêmement vaste. Les lois de l'homme entre son prochain, c'est pas uniquement attention, tu dois pas voler, tu dois pas prendre quelque chose dans la poche, mais ça va inclure effectivement des sujets de prêt à intérêt, c'est des sujets de responsabilité. Si je donne un objet à mon ami, je lui demande de le garder, qu'est-ce qui se passe s'il se le fait voler, qu'est-ce qui se passe s'il le casse, qu'est-ce qui se passe si son fils se met dans la poubelle, etc., etc. Si c'est lui qui me l'a demandé, c'est encore des choses différentes. Il y a des lois concernant le paiement de ses salariés, c'est-à-dire à quel moment, jusqu'à quand j'ai le droit de payer mes salariés. Il y a des obligations extrêmement importantes dans la Torah de payer le salaire de ses salariés à temps. C'est une obligation. On va y revenir. Vous avez des sujets qui concernent aussi les droits du salarié et les obligations des salariés. Évidemment, donc les droits et donc ce qui veut dire les obligations des patrons, etc. Vous avez en fait énormément de sujets. Ce sont des. Moi, à un moment, j'ai été voir un rabbin, j'ai dit, regardez, j'ai envie de devenir Dayan dans ce sujet, dans le sujet de Choshen Mishpat. Il me dit, regarde, normalement, ceux qui font Dayan, ils ont déjà fait 20 ans de yeshiva plus 12 ans pour devenir Dayan. Voilà, en gros, pour vous expliquer, 30 ans pour arriver à connaître tout. Bon, j'ai pas abandonné, j'y bosse, mais je serai peut-être pas Dayan. Mais en tout cas, le sujet, c'est que finalement, quand on voit ça, quand on lit, on étudie ces sujets-là, et on se rend compte que la Torah nous a donné des mitzvot qui concernent le monde du travail et notre vie professionnelle et notre vie de tous les jours, donc même notre vie au supermarché, etc. À ce moment-là, en fait, quand on sort de la synagogue, on n'est pas en train d'enlever notre kippa et la mettre dans la poche, d'accord? Parce qu'en fait, je vous dis, ici, on peut avoir de bonnes raisons, entre guillemets, d'enlever sa kippa, de peur, etc., je ne sais pas quoi. En Israël, beaucoup de gens continuent à enlever leur kippa de la poche, alors qu'ils sont Shomrim Shabbat, etc. Je sors de la synagogue, je mets la kippa dans ma poche. Qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole? Je sors de la synagogue, je mets ma kippa dans ma poche. Ça veut dire, je suis passé par la synagogue, j'ai fait mon job, j'ai parlé à Dieu, j'ai fait quelque chose, on va y revenir, et maintenant, je suis à l'extérieur, c'est terminé mon job de juif. D'accord? Voilà, maintenant, allez, je me mets au boulot. Et on a ce sentiment. On a normalement ce sentiment. En tout cas, moi, je l'avais et mon entourage là en permanence. C'est quand on sort, effectivement, de la synagogue, on n'a pas l'impression qu'on a maintenant quelque chose de particulier à accomplir qui est complètement lié au judaïsme. Alors qu'en fait, comme je viens de vous l'expliquer, le Talmud traite ça dans des centaines de pages. Le Shulchan Aruch, c'est un quart de l'ensemble des lois. Je pense que même en volume, c'est plus qu'un quart de l'ensemble des lois juives. Et plus que ça, si vous analysez la Torah, vous analysez le texte de la Torah, les 10 commandements qu'on va recevoir à nouveau donc le 6 Sivan, à Shavuot la semaine prochaine, les attachés, les 10 commandements ont été donnés donc le 6 Sivan. Et en fait, cet épisode est traité dans la parashat Yitro, dans le Chumash, dans la Torah. Après la parashat Yitro, donc évidemment, même dans les 10 commandements, il y a « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas », tu ne jalouseras pas. Il y a plusieurs lois qui concernent sa relation avec son prochain. D'ailleurs, on dit qu'elles sont séparées en deux. Il y a une partie qui concerne la relation avec Dieu et une partie qui concerne sa relation avec son prochain, moitié-moitié. Et Ensuite, après la parachat Yitro, vous imaginez donc Moïse qui descend du mont Sinaï, qui est là et qui va aller parler au peuple juif. Par quoi il va démarrer? Il va dire, regardez, voilà à quoi vont ressembler les tefilines. C'est comme ça qu'on pourrait imaginer. Voilà comment on va manger kasher. Voilà comment il faut prier. Voilà comment si. Et en fait, vous lisez le texte, pas du tout. Immédiatement après la parasha Yitro, on passe à la parasha Mishpatim. La parasha Mishpatim parle immédiatement, dès le début de Mishpatim, parle de sujets financiers, parle de sujets de dommages, parle de la relation qu'on doit avoir avec son Eved. Eved, on peut le traduire par esclave, peut-être à l'époque, mais plutôt son serviteur, d'accord, qui était un statut spécial à l'époque. Et la relation importante qu'on doit avoir avec lui, le fait qu'on ne peut pas le garder à vie, le fait que, par exemple, dans les commentaires, on voit que si j'ai un coussin qui est plus moelleux que celui de mon serviteur, je dois lui donner le coussin plus moelleux. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. Peuple juif, on arrive en disant, regarde, n'importe quel homme sur terre, tu le respectes et tu vas en permanence essayer d'améliorer le lien qu'il va y avoir avec la communauté. Le sujet du juif, finalement, c'est d'en permanence ne pas penser qu'à soi, mais de penser en permanence aux autres. Je ne fais rien d'égoïste. Et la Torah nous donne des lois et des recommandations qui font là pour ne pas être égoïste. Donc, de quoi on parlera par Hashem Mishpatim? C'est comme c'est le sujet que j'ai cité tout à l'heure. C'est effectivement payer son salarié à temps, ne pas prêter à intérêt, ni emprunter à intérêt. Le sujet de l'esclave, le sujet des prêteurs, le sujet de la responsabilité, par exemple, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et vous lui prenez un gage en échange, d'accord? À l'époque, quand il prêtait de l'argent à quelqu'un qui avait besoin d'argent, il lui prenait par exemple son manteau, un livre ou n'importe quoi. On lui dit, voilà, si vous lui prenez son manteau, chaque soir vous devez aller lui rendre parce qu'il va en avoir besoin la nuit parce qu'il va faire froid. Ne pensez pas uniquement à vous, à votre système, vous voulez vous protéger, ok, mais vous pensez aussi que lui va avoir besoin de son manteau tous les soirs. Et ça, c'est texto dans la Torah. Avant les fêtes juives, avant la cacheroute, avant tout, on parle de relation avec son prochain. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est un monde gigantesque de lois qui traitent de n'importe quel sujet, et qui concerne notre relation avec les autres. Donc ça, c'est la première. Je vais revenir après sur ces lois, mais par exemple, donc j'ai expliqué que donc la parashat Yitro, la parashat Mishpatim suit la parashat Yitro. Donc voilà, vous imaginez Moshe Rabbeinu avec, on dit qu'il avait de la lumière qui resplendissait de son visage. Il est là au mont Sinaï, il donne la Torah, il est en train de parler. Tiens, on imagine qu'il va parler de quelque chose de beau, de mystique, etc. Non, il est en train de parler de lois qui sont extrêmement terre à terre, qui sont de lois de comment on va vivre tous ensemble. Tous ensemble, c'est à la fois les Juifs entre eux et les Juifs vis-à-vis des autres peuples. La deuxième chose, c'est que quand vous allez au Kotel, d'accord, même Donald Trump y a été maintenant, quand vous allez au Kotel, vous pensez effectivement au temple qui est derrière. On n'est pas là, le Kotel n'a aucune valeur à part le fait qu'effectivement c'est le mur qui reste. Mais derrière, il y avait le temple et on est en train de prier en permanence pour la reconstruction du temple, d'accord. Et quand on imagine le temple, on imagine quoi? Alors, le temple, ça avait plusieurs fonctions. La fonction numéro 1, c'est pas numéro 1, il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est justement, il y avait l'une des fonctions, c'était effectivement que trois fois par an, pendant les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, l'ensemble du peuple juif venait se pèleriner à Jérusalem, et alors à Pessah, manger le sacrifice pascal, etc., etc. Donc, il y avait en fait, le peuple juif se réunissait à Jérusalem, qui était la ville de... On disait la ville de Dieu, c'est-à-dire que la ville où en fait on ressentait la Shrina, la présence de Dieu, par la présence du temple. Il y avait plusieurs miracles au cours du premier temple qui avaient lieu, et même pour le deuxième temple, c'était là qu'il y avait les Kohanim, il y avait les sages du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement à Yom Kippour, le grand Kohen Gadol, faisait un service. Alors nous, on fait une prière à Kippour, donc on passe toute la journée à la synagogue, mais à l'époque, du Beth Amikdash, la plupart du travail n'était pas fait par les gens, chacun de leur côté, mais était fait par le grand prêtre, était fait par le Kohen Gadol. D'ailleurs, si vous avez un livre avec des traductions pour Kippour, si vous arrivez à voir, c'est qu'au final, dans la prière que l'on fait à Moussaf de Yom Kippour, on est en train de citer l'ensemble des actions que faisait le grand prêtre au temple. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Le grand prêtre ensuite faisait un sacrifice, allait dans le Kodesh à Kodashim, l'endroit où il y avait l'arche, et voilà, faisait tout un rituel qui prenait plusieurs heures. Par contre, donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose auquel on pense. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait autre chose au Beth Amikdash. Il y avait au Beth Amikdash le grand Sanhédrin. Il y avait collé au Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il y avait une entrée qui était de l'extérieur du Beth Amikdash, une entrée de l'intérieur du Beth Amikdash. Il y avait un grand centre, un grand tribunal, où vous aviez les 71 plus grands sages du peuple juif, qui étaient là et qui avaient plusieurs fonctions. La première fonction, c'était depuis ce Sanhédrin, ils allaient nommer l'ensemble des juges qui allaient résider dans les différentes villes du pays. C'était eux qui nommaient les juges. La deuxième fonction, c'est que s'il y avait un cas qui n'arrivait pas à se résoudre dans, effectivement, l'un des petits Beddin, ça remontait, effectivement, au grand Sanhédrin. Il y avait quelques autres fonctions, comme c'était eux qui allaient... le roi avait besoin de leur autorisation pour aller faire une guerre, etc., etc., mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, donc quand on est derrière le kotel et on est là en train de prier, on est en train d'imaginer, effectivement, le Kohen Gadol, la Menorah, plein de choses comme ça, on oublie que finalement, quand on est en train de prier pour la reconstruction du Beth Amikdash, on est aussi en train de prier pour la reconstitution d'un tribunal qui va être là pour régir et légiférer, selon la loi juive, selon la Torah, l'ensemble des actions du peuple juif. L'ensemble des conflits entre personnes, des conflits, ça ne veut pas dire on se dispute, on se tape dessus, c'est un moment, on lit un contrat, on ne lit pas la même chose, on va voir un Beth Din, c'est ce qu'on fait nous à Bnei Brak, donc moi j'habite Bnei Brak aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à Bnei Brak. Quand on a un conflit, on a un doute sur quelque chose, on va dans un Beth Din rabbinique. Moi, j'ai dû le faire 4 fois déjà, d'accord, en 10 ans. Et le Beth Din rabbinique va aller nous trancher, effectivement, si on doit aller de ce côté ou de ce côté-là. Ça a l'air des fois un peu dingue, parce qu'on n'a pas ici, en France, il y a un Beth Din, il y a des Beth Dinim, etc. On utilise malheureusement beaucoup plus pour les cas de divorce et des choses comme ça. Mais en fait, finalement, nous, on utilise les Beth Dinim pour tous nos conflits qu'on peut avoir entre personnes. Toutes les marlocotes, toutes les divisions qu'on peut avoir entre personnes. Pour bien vous montrer le genre de choses, j'ai fait des travaux chez moi il y a un an. Pendant que la personne faisait les travaux, il a amené une benne pour enlever tous les gravats. Il a pris une société qui a amené une benne. En mettant la benne, le prestataire a détruit complètement le mur de l'immeuble. D'accord ? Il a détruit le mur. Bon, et le mur est détruit. Alors le Kablan, celui qui faisait les travaux, il a explosé de rire et tout. Il me dit « Ah, c'est pas grave, je te le referai. » Et donc il a refait un mur, mais il a refait un mur qui n'a rien à voir avec le mur qui est de l'autre côté, parce qu'il y a deux murs. Et donc les voisins arrivent et disent « Bon, t'es sympa de nous avoir refait le truc, c'est pas le même mur. » Ferret, déjà moi, je suis pas censé le faire, c'est pas moi qui ai cassé, c'est le prestataire là-bas. C'était d'une ville arabe, franchement je sais même pas comment le retrouver. En plus, déjà, le truc, bon, voilà, soyez contents, ça part comme ça. Voilà. Et donc, voilà, on avait un sujet sur le mur. Il y avait d'autres sujets avec lui, mais on avait comme ça une question. Alors, qui doit payer le mur, qui doit le rembourser, qui doit le refaire, etc. Et voilà, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Et donc là, à un moment, on a été au Beth Din Rabbinim, on s'est assis, on a présenté le sujet, etc. Ils ont posé des questions, etc. Et après, au fur et à mesure, tous les sujets. Bon, ça a pris pas mal de temps parce qu'il y avait beaucoup d'autres petits sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. Mais à chaque fois, c'était pas d'accord, ça ne veut pas dire « moi j'ai raison, toi tu as tort », c'est « moi voilà ma vision, toi tu as une autre vision ». Et d'ailleurs, quand on étudie le Talmud, on apprend à comprendre qu'il peut y avoir 2 vérités, 3 vérités, 5 vérités à une même situation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un point de vue et un autre point de vue, et les deux points de vue sont 100% justifiés, même vis-à-vis de la Torah. Vous aviez des marlokot, dans le Talmud, vous avez en permanence des disputes, entre guillemets disputations, je crois que ça se dit, entre des rabbanim qui vont dire « moi voilà comment je lis la chose » et « moi voilà comment je lis la chose ». Et donc on arrive des fois avec des lois qui sont un peu différentes. Je vais vous prendre un exemple pour comprendre le sujet de Marloket. C'est pas le sujet là, mais c'est un exemple que j'aime beaucoup. On a par exemple un sujet qu'il est interdit le Shabbat, interdit d'effacer. Ça fait partie des 39 travaux de Shabbat. On n'a pas le droit d'effacer une écriture. Alors, il y a une question. Si maintenant je déchire une tablette de chocolat sur laquelle est écrit, je ne sais pas, c'est quoi ici, Milka, je ne sais pas. Bon, élite, on a en Israël. OK, si je déchire un mot Est-ce que ça s'appelle que je l'ai effacé ou je l'ai déchiré? D'accord? Ou je l'ai détruit? Et là, il y a une marloquette, entre, même aujourd'hui, entre les rabbanim, entre Hara Ovadia Yosef qui dit, il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas effacer, ça s'appelle déchirer, et il n'y a pas de problème de déchirer, bon, ça c'est un autre sujet. Dans ce cas-là, attention, je ne prenais pas le sujet, il faut les étudier. Et d'autres disent, non, 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 le fait d'effacer, c'est que le mot, il y avait écrit, avant il y avait écrit élite, maintenant il y a écrit et de l'autre côté il y a écrit élite, c'est deux mots différents, donc tu as fait quelque chose d'autre. Vous voyez le sujet? Les deux ont raison, les deux ont une très bonne, ce qu'on appelle svara, une très bonne raison d'expliquer la chose. Mais on a deux visions différentes. Et ça rend très très humble en fait d'étudier. Quand on étudie énormément le Talmud, etc., et on étudie énormément la halakha, ça rend très humble. Parce que quand on a maintenant un conflit avec quelqu'un, on va immédiatement faire ce qu'on fait quand on étudie la Gemara, on va immédiatement essayer de comprendre d'abord son point de vue. Nous on a un point de vue, etc., mais attends, je dis, attends, explique-moi ce que tu es en train de me dire. D'accord, donc tu dis ça. Ah, ouais, c'est vrai, ça tient mieux, toi, ce que tu dis, ça tient mieux que ce que j'allais te dire. Ou ce que j'ai dit, ou ce que je viens de te dire. D'accord? Donc ça, ces sujets sont super importants. Donc, je reviens au Beit HaMikdash, je reviens au Temple. Donc au Temple, il y avait le Sanhédrin. Et donc le Sanhédrin allait, des fois, gérer le sujet dont je viens de vous parler. Il y a donc le mur qui s'est effondré de l'immeuble, de petit Bédine n'a pas su trancher, pour une certaine raison. Et donc on allait au Temple, et on passait par le Mikvé. Et on allait là-bas pour aller voir les sages, pour dire, regardez, on n'arrive pas à trancher. Bon là, ce n'était pas un gros montant, donc ce n'était pas très dur, mais on peut se retrouver avec des gros montants. Et voilà, c'était donc au Sanhédrin qu'on allait trancher définitivement ces lois-là. Donc quand on est en train d'appeler à la reconstruction de Jérusalem en permanence, on est en train d'appeler à la reconstruction d'un monde juste. Et d'un monde juste selon les lois de la Torah, dans tous les domaines. Absolument tous les domaines. Donc, évidemment, quand je vous dis tout ça, on ne doit évidemment pas se contenter de ça. On ne doit pas se contenter après de se dire, effectivement, aujourd'hui, même dans le monde non-juif, il y a les sujets, ce qu'on appelle business éthique. L'éthique dans les affaires devient un grand sujet. Alors, je peux vous dire, moi, je conseille des grands groupes, ils partent d'une feuille blanche. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont écrire. Ils disent éthique. Bon, alors vous avez une question. Imaginez, par exemple, on vous propose d'acheter une mine d'or au Mexique, d'accord? Et on vous la propose pas cher. Super, bonne affaire. Vous associez avec des copains, etc. Et là, vous faites le business plan. Ils disent, voilà, à combien on peut recruter des gens là-bas pour aller creuser? Alors, ils disent, de toute façon, ils sont tous en train de mourir. Donc, voilà, pour qu'ils aient à manger, on va les payer 2 dollars par an. Pas 2 dollars par mois, d'accord? C'est ce qui se passe dans les pays d'Afrique, c'est là d'entre eux. On a une question, nous, c'est est-ce que il vaut mieux investir dans cette mine et payer ces gens 2 dollars en se disant, de toute façon, sinon ils vont mourir? Ou alors, est-ce que c'est un abus de faire ça? Est-ce que c'est un abus? Je ne suis pas en train de profiter finalement d'une situation. Donc on a deux manières. Je n'ai pas la réponse à cette question, d'accord? Je n'ai pas la réponse, mais juste le fait de se la poser vous explique comment est-ce qu'on réfléchit quand on passe sa vie à étudier ces sujets-là. On a maintenant des sujets, on peut avoir deux visions différentes, et personne, mais au défi, personne ici n'arrivera à dire « c'est sûr que c'est ça la chose à faire » ou « c'est sûr que c'est ça ». Parce qu'effectivement, ce sont deux visions différentes. Donc après, il faut étudier et essayer de voir si effectivement on peut trancher. Et donc, les lois concernant ce Rosh Hashanah qui influent absolument, absolument tout, doivent être mis donc à côté de des lois de Ben Adam Lamakom, donc les lois de Kashrut, de Shabbat, etc. Les lois en général, la Ben Adam Lamakom, très très souvent, sont là très souvent pour nous rendre plus humbles. Pour quand on obtient par exemple une richesse, d'accord, on est là, on gagne 100, on sait qu'on doit donner un maaser, on doit donner 10% ou 20%, etc. sur les fruits de sa récolte, ses animaux à l'époque. Aujourd'hui sur son argent, etc. On sait qu'à un moment, quand je gagne, immédiatement, je rends. Donc, ça donne un lien avec l'argent absolument très différent. Puisque quand vous gagnez de l'argent, vous dites, ah, j'ai pas gagné pour moi, j'ai gagné pour tout le monde. J'ai gagné pour tous les juifs. Puisque maintenant, je vais faire profiter la communauté. Et donc, en fait, ces lois de Ben Adam Lamakom, les lois avec Dieu, à la fois Shabbat, etc. Je vais pas revenir sur tout, parce que c'est pas le sujet. Mais toutes ces lois-là sont là pour nous amener quelque chose. Une erreur qu'on peut faire, et qui viennent de la manière dont les autres peuples servent leur Dieu et servent leur religion, et depuis toujours, c'est de penser que Dieu a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de nos prières, n'a pas besoin qu'on leur amène un concombre tomate, n'a besoin de rien. D'accord ? Quand vous dites « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad », vous dites deux choses. Quand vous dites que Dieu est un, vous dites deux choses. Vous dites un, qu'effectivement il est un, parce qu'à l'époque des Grecs et la mythologie romaine, etc., ils avaient des dieux, il fallait des gros dictionnaires pour avoir la liste de tous les dieux. Il est un. Mais aussi, le un, l'explique tous les commentateurs, expliquent que le un veut dire qu'il est tout. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout le monde est inclus dans Dieu. C'est-à-dire que Dieu, finalement, n'a absolument aucun manque. Il n'y a rien d'extérieur à Dieu. D'accord ? C'est un sujet un peu compliqué. Mais pourquoi ce sujet est important, de savoir que Dieu n'attend rien de nous ? C'est que quand on arrive à la synagogue et qu'on vient prier, il ne faut pas croire quand on a fini notre texte, blablabla, d'accord ? Ce qui peut arriver, on est pressé, on a etc. Il ne faut pas croire qu'on a fait plaisir à Dieu. Il ne faut pas croire, allez, bah, j'ai fait ce que je devais faire, je retourne au boulot. Non. Ce qu'on fait à la synagogue, on est là 3 fois par jour pour se rappeler que Dieu contrôle le monde. C'est-à-dire que quand vous allez demander dans votre Amida, dans les Shemona Esrei, vous allez dire « Dieu, guéris-moi. Dieu, guéris-nous. » Toujours en parlant nous. Toujours dans ce concept de non-égoïsme. « Guéris-nous. Dieu, donne-moi la chorma, bina vadat, donne-moi la sagesse. Dieu, donne-moi la parnassa. Dieu, etc., etc. Aide-moi à faire tchouva. Dieu, pardonne-moi, etc., etc. » Quand on est en train de faire ça, on est en train de s'imprégner dans le cœur que Dieu a un lien avec tous ces sujets. Parce qu'on peut l'oublier. Quand on ne va pas à la synagogue, on peut oublier et on peut se dire « Ah, j'ai un bon business cette année, je vais une bonne année, ah là là, je suis un bon. » Alors qu'en fait, Dieu contrôle absolument tout. Ça peut être choquant, mais Dieu contrôle absolument toute notre vie. Il y a dans le Talmud, Maseret Nida, il y a un passage un peu magique. On dit qu'il y a un ange qui est dédié aux grossesses. Et cet ange s'appelle Laïla. Cet ange-là vient avec le fœtus devant Hachem avant la naissance. D'accord ? Et va poser 3 questions à Dieu. Il va dire, cette type, elle va être, comment va-t-il être ? Et il pose 3 questions. Est-ce qu'il va être Chacham ou Tipesh ? Est-ce qu'il va être sage, intelligent ou bête ? Est-ce qu'il va être Gibor ou Chalash ? Est-ce qu'il va être fort ou faible ? Est-ce qu'il va être Ashir ou Ani ? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre ? Il pose 3 questions. La Gemara là-bas réagit et dit, c'est tout, il manque une question. Est-ce qu'il va être Sadik ou Racha ? Et là, il dit non. Tout est décidé dans le ciel. Nos succès, notre fortune, même notre musculature. D'accord ? On voit, il y a des gens qui sont plutôt pas très musclés comme moi, et d'autres beaucoup plus. Ça a été décidé avant même la naissance. Dingue. Et ça m'a rassuré, franchement, ce jeu, c'est bien. Et par contre, donc la Torah, la Gemara va aller dire, absolument, donc, tout est décidé, la fortune, la pauvreté, la force, la faiblesse, l'intelligence et le fait d'être moins intelligent. Tout est décidé avant la naissance. Qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous reste à faire dans ce monde ? Il nous reste à avoir de la Yirat Shamayim, avoir la crainte du ciel. Alors, le mot crainte du ciel, il faut faire attention. À l'époque des idoles, des idolâtres, la crainte du ciel, c'est quand ils entendaient un tonnerre, ils faisaient « Oh, mon Dieu veut me faire quelque chose », etc. Il y avait un frisson. D'accord ? On a aussi cette notion aujourd'hui, quand on écoute un tonnerre, on a une bracha à dire. Je ne sais pas si vous savez, on a une bénédiction à faire quand on voit un éclair et quand on écoute un tonnerre. Mais, j'ai perdu le fil. J'y vais. J'étais où, pardon ? Yirat Shamayim, voilà. Qu'est-ce que Yirat Shamayim ? Le Yirat Shamayim, Le Yirat Shamayim, c'est quoi? C'est à n'importe quel moment de ma vie, je dois faire des choix. Des choix qui vont être, est-ce que je fais le bien ou est-ce que je fais le mal? Ces choix-là, je vais les faire en public, je vais les faire aussi en privé quand je suis tout seul à la maison. D'accord? À n'importe quel moment, je vais faire des choix. La Yirat Shamayim, c'est te dire à tout instant, n'importe quand, je dois décider de choisir le bien. Et le bien, qu'est-ce que c'est le bien? Alors certains vont dire, oui, c'est l'amour du prochain, tant à joue, etc. D'accord? On peut faire des théories comme ça et partir de zéro. Nous, on a de la chance, énormément de chance, c'est que la Torah nous explique c'est quoi le bien. Et l'ensemble des mitzvot que l'on a, c'est ça qui est censé être le bien. Quand je vais en rendez-vous d'affaires et que je vais voir un client, j'ai le choix en lui disant, bon, je vais quand même aller dans le resto pas cachère et je vais prendre une salade, de toute façon, ça ira. Ou je vais prendre un petit poisson, ou je vais prendre des choses comme ça. Ou se dire, monsieur, regardez, on a un super resto cachère à côté, je mange cachère, vous voulez venir avec moi? On va là-bas? Ouais, super, pas de problème. D'accord, ça c'est les choix. Quand vous arrivez en entretien d'embauche, vous allez devant votre patron, et votre patron va vous dire, ah, vous avez fait cette école. Et vous savez très bien que vous avez quitté après les 3 mois. Il va vous dire, c'est une super école et tout, vraiment super. Et là, vous pouvez lui dire, non, regardez, vraiment, j'ai quitté après 3 mois. Et vous êtes obligé de le dire. Vous avez en permanence, vous êtes un agent immobilier. Vous êtes en train de vendre une maison, vous voulez vendre une maison, et il y a un acheteur qui est intéressé. Ce qu'on fait en général, on met la pression à l'acheteur, et on lui dit, il y a un autre client qui est super intéressé, il est sur le point de faire une offre, mais ce n'est pas bouclé. Ça, c'est la phrase classique. Vous allez voir, vous avez n'importe quelle maison, il y aura toujours un client. Toujours. Interdit, ça s'appelle Gnevat Da'at. Interdit selon la halakha de faire ça. Gnevat Da'at, ça veut dire du vol de l'esprit. On n'a pas le droit. Juif, non-juif. Je précise bien, juif, non-juif. Il n'y a aucune différence. C'est même pas qu'il n'y a aucune différence. Le Rambam précise que la Gnevat Da'at est plus grave que le vol chez les non-juifs. Prenons maintenant, essayons de rentrer par exemple dans ce sujet des Gnevat Da'at, c'est une bonne transition. Avant de rentrer dans ce sujet-là. Donc moi, ce que je voulais dire sur le sujet de la synagogue, c'est que le sujet de la synagogue est là. On va à la synagogue pour se resynchroniser avec Dieu et repenser et se remettre les pendules à l'heure en disant « C'est toi qui m'amène la santé, qui m'amène la parnassa, qui m'amène ci, qui m'amène ça, etc. etc. » Allez, j'y retourne. Maintenant, ma vraie épreuve, elle est à l'extérieur. C'est quand je sors de la synagogue, bon, même à la synagogue, il faut éviter de parler, etc. Ça fait partie des lois. Mais quand je sors à l'extérieur, maintenant, allez, j'y retourne, je vais aller appliquer l'ensemble des lois que tu m'as données. J'ai appliqué l'ensemble des lois. Et quand on ne prie pas, on n'a pas l'habitude de ce réflexe, on oublie en permanence que Dieu a fait les choses. Ou quand on prie sans comprendre aussi, on peut arriver à ça. On oublie que Dieu finalement est lié. Quand on a l'obligation donc, de faire Birkat Amazon après un repas. D'accord ? Quand on mange du pain, on doit faire Birkat Amazon. D'accord ? On fait Birkat Amazon, on a l'impression c'est un dû, c'est un devoir. Oui, effectivement, c'est une mitzvah. Ça sert, effectivement, c'est un devoir, il faut le faire. Mais quel est l'objectif du Birkat Amazon? C'est là. Dieu, c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous donne notre table, c'est toi. Franchement, on peut dire, c'est moi qui ai bossé toute la semaine et je vais dire que c'est Dieu qui m'a donné. Eh ben non, effectivement, tu as bossé toute la semaine, tu as fait ce qu'on appelle ta ishtadlout, tu as fait effectivement ce qu'il fallait à faire, tu as amené le keli, le récipient qui te permet de recevoir. Mais il y a des autres, ils ont fait exactement la même chose que toi et ils n'ont pas reçu. Tout le monde ne reçoit pas en allant faire le boulot. Et c'est effectivement Dieu qui a décidé que tu reçois. Le matin, quand on se réveille, à la première seconde du réveil, on va aller dire « Modéani et Fanecha ». On va remercier Dieu du fait de s'être réveillé. Immédiatement, on va aller aux toilettes et à la sortie des toilettes, on a une prière à réciter toute la journée. « Asher Yatzar », sortie des toilettes. Quand on se lève, ensuite, après, même si c'est après cette levée, on va remercier le fait de cette Zokev Kefufim, de cette levée de son lit, de cette juste repencher, le fait d'avoir ouvert les yeux, le fait d'avoir l'ensemble des besoins, d'avoir ses vêtements, etc. On va aller en permanence dans nos prières, on va en permanence dire, Dieu, c'est toi, merci de m'avoir donné, merci de m'avoir donné, merci de m'avoir donné, merci de m'avoir donné. Merci, 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 merci. Et à la fin, si on fait le compte, il nous a tout donné, il ne nous reste plus rien. Rien, il n'y a vraiment rien. Et ce qui nous reste, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la Yirat Shamayim. Ce qui nous reste, c'est non, dans ta vie maintenant, tu vas sortir et tu vas en permanence devoir faire, choisir le bien ou le mal. Et c'est faire des mitzvot, respecter les commandements de la Torah, même dans le monde, dans le monde, dans le monde des affaires, et de l'autre côté, respecter effectivement aussi toutes les notions effectivement de cash-route, etc., etc. Donc en fait l'avantage de tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est génial. Moi je vais vous dire franchement, quand j'ai avancé sur ce sujet, j'ai trouvé ça génial. C'est qu'au lieu d'être juif 2 heures par jour quand on va à la synagogue, on est juif 24 heures sur 24. C'est pas mal. On a un challenge, on est dans un grand jeu vidéo où on a en permanence des niveaux à battre. On a des épreuves qui sont envoyées par Dieu. Tiens, je vais t'envoyer un client potentiel un peu neuneux. Bah tiens, on va voir si tu vas être droit avec lui. Alors voilà, en général, la réaction qu'ont les gens quand je dis ça, ils disent « Oui, mais tu vis dans le monde des bisounours, c'est quoi cette histoire ?» Le monde du business, c'est sans foi ni loi. Chacun est en train de tirer la corde et chacun est obligé de tricher. L'autre, il triche. Le marketing, c'est de la triche, etc. Et moi, franchement, je peux vous dire, effectivement, il y a énormément de gens qui trichent. Mais nous, les Juifs, on doit être exactement l'opposé de ça. C'est ça, notre rôle, c'est de représenter une justice parfaite. Et malheureusement, quand on parle de la crise des banques, on parle de Madoff, qui a fait une escroquerie. On parle des Juifs. Et pourquoi on parle des Juifs? Il n'y avait pas que Madoff qui avait des escroqueries, il y avait plein de non-Juifs. Non, on disait Madoff. Il n'y a pas que Madoff. C'était le système complet qui était corrompu. Mais non, c'est le Juif qu'on va viser. Et là, on va aller appeler, le cri va se lever, le truc. Oh, bande d'antisémites, oh, l'antisémitisme, on va aller lutter. En permanence, on parle antisémitisme. Non, non, non. On dit, la Gemara dit que si on reçoit une insulte d'un fou, on doit prendre en considération le mot qu'il nous a dit. Il nous a appelé voleur. Nous, on dit, mais n'importe quoi, il dit n'importe quoi. On dit, ah, il nous a dit voleur. On doit faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh, réfléchir. Donc, il m'a dit voleur. C'est que Dieu m'a envoyé le fait que quelqu'un me dise que je suis un voleur. En quoi je suis voleur? Et là, on se rappelle qu'il y a 2 ans, on a emprunté de l'argent à un ami, on a oublié de le rembourser. Mais complètement oublié, on ne comptait pas le rembourser. Ça, c'est ce que dit la Gemara. N'importe qui va vous faire un reproche, même si celui-là est faux, prenez-le comme un cadeau. Prenez-le comme un message du ciel. Et donc là, on est en permanence. Donc quand les gens me disent, comment tu fais effectivement pour avoir cette double vie? Je dis, non, j'ai pas du tout une double vie. J'ai une seule vie. Quand je suis avec les ministres, quand je suis avec Emmanuel Macron, quand je suis avec les plus grands patrons d'entreprise, dans les années 2000, j'ai dîné avec les 12 ministres de l'industrie européenne. J'étais invité à Bruxelles et j'avais mon repas cachère. Ils l'ont vu, j'avais le sachet qui faisait plein de bruit pour ouvrir, on était dans une salle, ça faisait un écho énorme. Et j'étais là à essayer de l'ouvrir, à tel point qu'il y avait une ministre finlandaise qui était là et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je mange cachère. » Elle me dit « Moi aussi je devrais. » Elle était juive. Je peux vous dire. Bon, d'ailleurs, si je vous raconte comment a commencé cette histoire, c'est le chef de cabinet du ministre suédois qui m'appelle et qui parle à mon assistante et qui dit voilà, on va inviter M. Berbi à dîner avec les 12 ministres de l'industrie. Pour moi, à l'époque, en 2000, j'étais un peu tiré de partout par Jacques Chirac et par tous les politiques et tout, l'Assemblée, les sénateurs, etc. Donc bon, ça ne m'impressionnait pas plus que ça. Et bon, ils m'ont dit c'est un dîner. Donc elle vient me voir, je lui dis regarde, dis-leur, je mange cachère. Je ne vois pas comment je vais pas les regarder, quoi. Et là, ils me disent, aucun problème, monsieur, quel est votre numéro de fax? Vous vous rappelez ce que c'est un fax? Je vois les gens qui réfléchissent. Quel est votre numéro de fax? Et là, ils m'envoient par fax la liste de toutes les cache-routes d'Europe. Ils m'envoient, c'est suédois, hein. Suédois, c'est l'un des pays les plus, aujourd'hui, qu'on appelle un des plus antisémites, antisionistes, ta-ta-ta-ta-ta. J'ai un cabinet, il me dit, mais on voit la cache-route. Je choisis une cache-route, je me rappelle, j'ai choisi une cache-route de Strasbourg, etc. J'arrive là-bas, j'ai mon plateau, magnifique. Et je dîne avec eux. C'est dingue. Là, j'avais choisi. Et là, je peux vous dire, j'ai vu les étoiles à ce moment-là. J'ai vu les étoiles. J'ai dit, c'est là, à ce moment-là, que je suis en train de vivre mon rôle de juif. Dans ma vie de juif, il n'y a jamais un non-juif qui m'a reproché ma vie religieuse. Pour faire ça, il faut faire tout. On ne peut pas uniquement partir plus tôt le vendredi et le reste du temps perdre son temps et faire des mauvaises choses et être malhonnête et faire des trucs. C'est-à-dire que le judaïsme, ça doit être un tout. Pour faire un kiddush Hashem et pour être accepté, il faut que les gens voient qu'on amène de la valeur, des valeurs à une entreprise. D'accord? Qu'on soit le patron, qu'on soit un employé, qu'on soit la personne du support client. Et jamais les non-juifs m'ont fait des reproches. Jamais. Et on est très nombreux comme ça dans l'industrie, beaucoup aux États-Unis, etc., de gens orthodoxes qui bossent comme ça. Et effectivement, on a des expériences absolument magnifiques. Une seule fois, un jour, j'enlevais des bureaux et on a posé les mezouzot le soir, des nouveaux bureaux. Donc les salariés étaient là la journée, il n'y avait pas de mezouzot. Mais là, le soir, on a posé les mezouzot. Le lendemain matin, ils arrivent. Et là, les salariés arrivent, la plupart non-juifs. Et il y avait ma directrice financière à l'époque, elle me dit « Oh, c'est super beau, il paraît que ça porte bonheur. » C'est comme ça qu'on fait ? Et elle embrasse. Alors je dis « Voilà, ouais, c'est comme ça qu'on fait. » Effectivement. Et les autres rentrent en disant « Ah, sympa et tout, truc, ils arrivent, ils rentrent, bon. » Et là, il y en a un qui arrive, un de mes salariés non-juifs. Il arrive et il commence à me dire « Hey, Jérémy, déjà on est au rue du Sentier, c'était là qu'on était les startups. Déjà, on est rue du Sentier. En plus, tu mets des trucs visibles comme ça. Tu trouves pas que tu exagères ? » Moi, je lui dis, regarde, ça te regarde pas. C'est comme ça. Moi, je mets des mezouzot. Et voilà, ça te regarde pas. Je l'envoie y balader. C'est avéré. 3 mois après, on a eu un problème avec ce monsieur qui était en fait volé dans les caisses. C'était un escroc. Et une personne m'a annoncé qu'en fait, son vrai nom, c'était Rosenberg. Et très, très souvent, les plus grands reproches qu'on va avoir auront toujours soit d'un juif, soit de quelqu'un qui est marié avec une juive, mais quelqu'un qui a un lien avec les juifs. C'est toujours comme ça. Et si on lit même l'histoire de l'antisémitisme depuis tout le temps, on voit que même l'inquisition Torquemada, il y a, d'après Wikipédia en tout cas, c'était ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui étaient convertis au christianisme. Pas encore Maran, mais en tout cas, ils appellent ça les nouveaux chrétiens. Eux, ils étaient vraiment nouveaux chrétiens. Ils s'étaient vraiment convertis. Et lui, il a été brûler les juifs qui ne voulaient pas se convertir. D'accord ? Quand on voit la personne qui a inventé le terme arien, c'était le mari allemand de la petite fille de Mendelssohn qui a inventé le mouvement libéral. Il y a eu plein de choses, et qui évidemment avait quitté ensuite toute la Torah, etc., etc. Il y a eu en permanence, quand il y a un truc qui sent le roussi, je vais vous donner une vraie information qui est très récente. Vous avez entendu, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, il y avait Emmanuel Macron qui est parlé dans Marianne, qui a parlé qu'il y avait un problème avec les écoles juives. Vous avez entendu parler un peu de ce sujet-là. Je vais vous donner le tournant de ces histoires. Moi, je suis très proche d'Emmanuel Macron, on s'est parlé le jour même, immédiatement. C'est un membre de la communauté juive, un membre important qui a été faire un Lashon Hara sur une yeshiva qui est en France, et en train de dire, il a fait un Lashon Hara. Et donc, lui, ce qu'il avait Emmanuel Macron, il pensait à ces gens. Et bon, moi, j'ai Emmanuel, je lui dis, regarde, pardon, monsieur Macron, président Macron. Ah, c'est dur, vengeance. président Macron. Bon, ok, de qui tu parles ? Moi je suis un enfant des écoles juives, tu me connais, on est proches, franchement, c'est quoi le problème des valeurs ? Moi je suis l'ambassadeur de la French Tech en Israël, je passe ma vie à être truc, voilà, c'est ça les écoles juives, ça sort des gens comme moi. Alors il me dit, non mais Jérémy, je ne parlais pas de toutes les écoles juives, je parlais de certaines. Je dis, et quelles ? Quelles écoles juives sont en train d'entraîner des valeurs contraires à la République ? On est en train de faire des terroristes nous dans les écoles ? Quelle ? Alors il me dit, oui, mais tu sais très bien de qui je parle. Je dis, mais non, moi vraiment, je ne savais pas de quoi il parlait. Non, mais qui, etc. Et je lui dis, ok, je te pose 2 questions. Je vous en prie, réponds à ces questions. De qui tu parles ? Et de quelle valeur tu parles ? Alors, sur lequel valeur il parle, il ne m'a jamais répondu. On a fait 30 mails, hein, quand même. 30 mails, il n'y a pas eu la réponse sur lesquelles valeurs il parlait. Et à un moment, il m'a cité le nom de quelque chose. Et il m'a dit, oui, mais m'a confirmé. C'était un juif. Ah, c'est un juif. Donc en fait, Macron, lui, n'en a rien à faire des écoles juives. Il n'a aucun problème si un juif n'avait pas été lui dire un mot à l'oreille. Et donc, après, il a fait un communiqué. Non, je ne parlais pas de toutes certaines. Je dis même ça. J'en ai parlé hier avec Joël Mergui, d'ailleurs, de ce sujet-là. Il m'a dit que ce comité était complètement nul parce qu'il est hors de question qu'on dise qu'il y ait une école juive qui pose problème en France. Une. Et donc, en permanence, effectivement, les juifs, il y a toujours un lien avec les juifs quand il se passe quelque chose qui nous empêche finalement d'avancer dans notre judaïsme. Je reviens maintenant, revenons à, donc voilà, donc en fait la synagogue c'est le fait de se synchroniser avec Dieu qui contrôle absolument tout, et nous notre but c'est effectivement de choisir de faire les mitzvot, de ne pas faire les mitzvot, de faire Shabbat, de ne pas faire Shabbat, de faire Kashrout, de ne pas faire Kashrout, etc., 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 etc. Et de ne pas mentir et de mentir, etc. On va parler du sujet de Gnevat Da'at, pour vous montrer à quel point effectivement on va loin. Donc je vous ai parlé du cas de l'agent immobilier tout à l'heure. On va vous parler d'un cas pratique qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Votre cousine vous appelle et vous invite au mariage de son fils à New York. Et vous, vous comptez pas du tout y aller. C'est loin, New York, le billet coûte cher, etc. Bon, ok, bah, t'es marié à New York, sans problème. Et là, vous avez un client qui vous appelle et qui vous dit, regarde, merci beaucoup pour ta proposition commerciale, je veux que tu viennes signer le contrat à New York. Coïncidence, ça tombe la même date. Ok, très bien. Alors vous dites, oh, super, coïncidence, je vais pouvoir faire les deux. Vous allez à New York, donc pour le client, pour le contrat, même s'il n'y avait pas le mariage, vous aurez été... Après, vous signez votre contrat. Et le soir, vous arrivez au mariage. Et là, votre cousine arrive en disant, waouh, c'est trop sympa. Tu es venu pour moi. Tu es venu, tu as fait le déplacement et tout. Alors nous, on pourrait se dire, ouais, on va la laisser penser ça. Hein? Ça lui fait plaisir en plus. Interdiction formelle. On n'a pas menti. J'ai rien dit, moi je suis arrivé au mariage. J'ai rien dit, elle a commencé à partir. D'accord? Interdiction formelle. De la laisser penser que je lui ai fait quelque chose, je lui ai rendu une tova. Je lui ai rendu un service. Elle est en train d'avoir un mauvais scénario dans la tête. Et qu'est-ce que cela va entraîner? Même techniquement, cela va entraîner que la personne va être redevable vis-à-vis de moi. C'est quand moi, je vais faire le mariage de mon fils en Yougoslavie, ça devient compliqué là, il y a des escales, je sais pas. Et quand je vais faire le mariage de mon fils en Yougoslavie, bah, il va dire, bah, il est venu à New York pour moi, je suis obligé d'y aller. Mais en permanence, il va avoir comme ça un sentiment. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire, non mais en fait, j'en avais rien à faire du mariage. Et voilà, je suis venu, il y a un truc qui s'est passé, hop. Non. Et effectivement, donc on doit, très très important, la Gemara revient régulièrement sur ça. On doit toujours être bon avec les briottes, avec les êtres humains, d'accord? On doit jamais rentrer dedans, on doit jamais vexer quelqu'un, etc., etc. Donc on doit lui dire, regarde ce qui s'est passé, il y a eu un miracle. Franchement, je ne pensais pas venir, j'ai plein de boulot, etc., etc. Et là, un client m'a appelé, il m'a fait signer, c'est tombé en même temps que le mariage, regarde comment les choses sont bien faites, allez, on va danser. Bon, pas avec la cousine, hein. Si c'est un homme, il faut faire attention. Mais en tout cas, je précise. Mais en tout cas, voilà, on explique, on dit la vérité. La personne va dire, ah, quand même, bon, il a eu son truc, bon, donc si c'est en Yougoslavie et moi, je n'ai pas de contrat, je ne suis pas obligé d'y aller. Ça s'appelle la Gnevat Da'at. Gnevat Da'at. Donc ça peut aller très très loin en fait ces sujets-là. Le sujet qui est cité dans le Talmud, c'est que un boucher kasher n'a pas le droit de vendre à un non-juif de la viande non kasher sans l'avertir. C'est-à-dire que le non-juif arrive et lui dit voilà, je vous sers de la bonne viande. Et vous en fait, vous en avez profité pour lui servir de la viande non kasher. Lui, il n'imagine pas qu'il y a de la viande non kasher. Et d'ailleurs, ça change rien dans sa vie. Ça change rien. Et vous pouvez lui dire, ah, c'est ma meilleure viande, c'est une des plus belles viandes, etc. Alors, vous êtes en train de vous débarrasser de la viande qui a été mal, la shkita a été mal faite, etc. Il est interdit de faire croire aux non-juifs qu'il est en train d'acheter de la viande cachère. Ce cas, il est très important. C'est-à-dire que même si pour lui, ça change absolument rien, ça change absolument rien au final. Mais lui, il a un sentiment de reconnaissance. Ah, il est en train de me donner une belle pièce. Alors qu'en fait, il est en train de se faire une idée. Effectivement, une même pièce, une idée fausse. Et là, de mon côté, moi, alors qu'on a le boucher, je suis en train de dire, ah là, j'ai trouvé un pigeon. J'ai trouvé quelqu'un pour me débarrasser de mon truc. Non, il y a désynchronisé entre les deux côtés. C'est le sujet de la Gnevat Da'at. C'est un sujet qui va très, très loin. Vous avez des sujets, par exemple, qui sont les sujets de la fixation des prix. Dans la même rue, vous avez deux épiciers, ou trois épiciers. Il y en a deux qui vendent une canette de coca à 1 euro. Et le troisième qui vend à 2 euros. On parle de le juif, d'accord? Là, ce sujet de Naas, c'est uniquement entre juifs, parce qu'il n'y a pas ce sujet-là dans le monde non-juif. C'est le sujet de la fixation des prix. Si les prix généraux, c'est 1 euro, Il est interdit au troisième de vendre à plus de 1 sixième du prix, donc 16,6% de plus que le 1 euro. On n'a pas le droit de, il n'a pas le droit de vendre le prix beaucoup plus cher. Aujourd'hui, dans les droits commerciaux européens, américains, etc., le client est responsable d'aller vérifier un prix. D'accord ? C'est-à-dire que vous, vous avez le droit aujourd'hui, selon la loi non-juive, la loi du pays, vous avez le droit de vendre un produit qui vaut 20 euros et d'aller le mettre à 500 euros. Il va l'acheter. Donc ici, après son droit de rétractation, il n'a pas besoin, il peut pas dire « tu m'as arnaqué ». Alors, il y a certains cas dans la loi aussi du pays, c'est si effectivement vous avez vendu un aspirateur à une grand-mère 20 000 euros parce qu'elle pensait que c'était… non, je ne sais plus, il y avait des histoires avec les francs et les euros, il y avait bon, les petites, toutes les arnaques. Il y a des moments où ça peut être considéré comme des gros abus, et là, effectivement, même la loi du pays fait les choses. Mais par exemple, faire x2, tout ça arrive très très souvent qu'il peut avoir un truc. Il y a un smartphone, non, pas un smartphone, il ne faut pas acheter un smartphone. Mais on va prendre, il y a une voiture qui vaut 30 000 euros, et le concessionnaire vous dit, ah, elle est super, je vous la vends 40 000 ou 50 000. Là, non, ça, c'est pas, on n'a pas, enfin, dans la loi ici, on a le droit de le faire. Dans la juive, on n'a pas le droit de le faire. D'accord? Ça s'appelle ONA. C'est des lois qu'il faut étudier. Ces lois, ça, ONA, j'ai étudié pendant 8 mois. J'ai étudié le Talmud. J'ai pas uniquement la halakha. La halakha, elle est plutôt simple au final. Elle est plutôt simple à expliquer. Il faut juste l'étudier. Il y a un. Il est super chaud, non? C'est moi qui est chaud ou. Je sais, je parle beaucoup. Bon, d'accord. Ouais. Bon, j'ai. Enfin, après, je. Il y a un. Sinon, mais j'y vais, je continue. Il y a un passouk qui est signé dans, qui est cité dans Tzfania, le prophète Tzfania, qui est un passouk qui dit comme ça. Sheherit Israël lo yasu avla velo yedaberu chazav. Donc Tzfania parle de la fin des temps. Il dit comme ça. Les restants d'Israël, ceux qui resteront d'Israël, ne commettront pas de corruption et ne diront pas de fausseté et de mensonge. Le Smag, qui date, c'est un commentateur qui date d'il y a 800 ans, disait qu'on devait effectivement faire très attention à notre manière de vivre, à notre manière de travailler. Parce que même il y a 800 ans, il y avait le problème. Chez les Juifs aussi, on dit, d'ailleurs le Talmud le dit, que le problème le plus grave chez les Juifs, le plus courant, et pas que chez les Juifs, dans le monde entier, c'est le problème de vol. C'est celui que les gens ont tendance à enfreindre le plus. Et le Smag dit que lorsque la rédemption arrivera, lorsque Mashiach arrivera, il va se passer quelque chose. Les nations vont comprendre donc, ok, c'est le peuple juif qui a été choisi. On s'est gouré, on a, voilà, toutes les autres religions n'étaient pas bonnes, etc. C'est le peuple juif qui avait raison. Et là donc, tous les projecteurs vont se tourner vers Jérusalem, comme hier, mais bon, c'était pour d'autres raisons. Et pour des bonnes choses, ils vont dire, regardez le peuple juif, le peuple de Dieu. Il y a le temple qui s'est reconstruit, le Mashiach est là, le roi et tout. Ah, c'est les juifs, voilà, ils ont gagné. Et là, le Smag dit, imaginez si à ce moment-là, il remarque qu'à côté, on a les sociétés de Forex, d'options binaires, de je ne sais pas quoi, toutes les sociétés de truands juifs d'Israël, d'accord, qui sont là. Et là, les non-juifs vont dire, quoi? C'est ça le peuple de Dieu? Et là, on fait ce qu'on appelle un vrai Chilul Hashem à ce moment-là. C'est un gars, ils vont dire, mais... En fait, le peuple de Dieu, c'est des truands, donc Dieu aussi, c'est pas quelqu'un de bien. C'est pas une entité, une belle entité, c'est n'importe quoi. Et là, on fait un Chilul Hashem, c'est-à-dire qu'on réduit la force de la chose. Donc là, les commentateurs disent, les juifs doivent faire très très attention. Soit pour que le Mashiach vienne, de faire en sorte à devenir un peuple qui est un peuple qui dit que la vérité, ou deux, que ceux qui ne disent pas la vérité disparaîtront et ne feront pas partie de ce qu'on appelle les restants d'Israël, Sheherit Israël, ce qui restera d'Israël. Vous savez qu'à la sortie d'Égypte, il est sorti que 1/5 des Juifs. Il y a eu 4/5 qui sont restés ou qui sont morts en Égypte. D'accord? Il est resté 1/5. Il faut éviter, Chas v'Shalom, effectivement, avec ces commentaires-là, il faut éviter à ce que, quand il y aura le Mashiach, qu'on ait 4/5, Chas v'Shalom, ou je ne sais pas combien, j'espère le moins possible, qui, voilà, on dirait, non, ils ne peuvent pas faire partie de la photo. Parce que s'ils sont dans la photo, l'escroc, le truc, etc., Non, ça gâche toute la beauté de cette venue du Machiav, de cette justice dans le monde, le Sanhedrin qui se réinstalle. Maintenant, le monde va être juste. On prie tous les jours dans la Amida, on prie Ashiva, Shoftenu, Kevareshona, amène-nous nos juges. D'accord? Donc, c'est très important, on se rend compte que dans plusieurs psukim qui traitent de la fin des temps, on parle de la justice et de la droiture et de l'honnêteté. Il y a un autre pasuk dans Yeshaya qui dit Tzion bemishpat tipadeh. Si Israël, Tzion, donc Yerushalayim, ou le peuple d'Israël, sera sauvé par la justice. Il y a une Gemara. Non, avant de parler à ça. Nous sommes donc des descendants. Je sais pas combien de temps j'ai, moi je parle. Mais... C'est bon, on continue? Vous êtes. Pardon? Un quart d'heure? Ok, super. Pardon? On a des questions, ouais. Après, il y aura des questions. 5 minutes de questions?
Non.
Chez les juifs?
Non,
les questions,
c'est sans
limite. Ah, sans limite, super.
Il y a un but
après, donc. Ça va refroidir. Ok. On s'appelle Israël. On s'appelle le peuple d'Israël. C'est pas le pays seulement qui s'appelle Israël. On s'appelle le peuple d'Israël. Pourquoi on s'appelle le peuple d'Israël? Parce que notre ancêtre commun s'appelle Yaakov. Et à Yaakov, à un certain moment, on lui a donné le nom d'Israël. Nous sommes les bénés Israël. En fait, on ne s'appelle pas Israël, on s'appelle les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov. Important, comment on fait quand on étudie la Torah, c'est quoi? C'est qu'on va dire, ok, moi je suis l'enfant d'Israël, donc je veux savoir quel est le message que portait Israël pour qu'effectivement on fasse un peuple aussi important avec autant de choses, autant d'histoire et d'actualité. Yaakov, si on voit l'histoire de Yaakov, il y a peu d'épisodes. Il y a un épisode où Yaakov était Yoshev Ohalim, Ishtam Yoshev Ohalim, il était assis dans les tentes. C'était quelqu'un qui pensait. On dit qu'il étudiait la Torah, mais il n'y avait pas de Torah, donc il faut comprendre cette notion. Mais en tout cas, il étudiait, il essayait de peaufiner effectivement le monde et la compréhension de Dieu, comme l'a fait Abraham et Yitzhak avant. Et ensuite, il y a l'épisode effectivement de Esav qui vend le droit d'aînesse à Yaakov. Ensuite, il y a l'épisode de Yaakov qui vole les brachot de Esav. Mais en fait, ce n'était pas un vol, puisque Esav avait vendu la Bechora. Mais bon, c'est un sujet. Mais en tout cas, la Mida de Yaakov, c'est-à-dire l'attribut de Yaakov, ça s'appelle Emet, la vérité. Et après, le père Yitzhak et Rivka envoient Yaakov aller chercher une femme qui est dans la famille du frère de Rivka, d'accord? Lavan, c'est le frère de Rivka, va aller chercher une femme. Et là, il se retrouve donc avec Lavan, qui est le plus grand des brigands de la Torah. On dit dans la Haggadah, vous avez un truc qui dit Arami Oved Avi, d'accord? On dit que la Haggadah, on dit ça chaque année, dit que Lavan était plus grave que Pharaon, puisque Pharaon tuait uniquement les mâles et les jetait dans le Nil, mais Lavan voulait tuer absolument tout. Et on voit dans le Midrash, on voit dans les Psukim, on voit que Lavan était en permanence en train de faire des fourberies. Effectivement, il avait promis Rachel, après 7 ans de travail à Yaakov, c'est cher, quand même, 7 ans. Après 7 ans, il avait promis Rachel, il lui donne Léa. Après, et effectivement, il a lui, comme il s'appelle Lavan, il s'appelle Blanc, comme tous les malfrats et tous ceux qui font des choses pas droites, ils ont toujours une bonne excuse. Il dit, oh non, mais nous, on va pas marier la jeune avant la grande. Ok, tu vas quand même, on avait un accord. Bon. Yaakov se laisse, continue. Après, il se marie quand même avec Rachel et il reste là-bas, il signe des accords, enfin, il a des accords avec Lavan et on dit que Lavan a changé 1000 fois l'accord avec Yaakov. 1000 fois. Le Midrash dit qu'il a changé 1000 fois. À chaque fois qu'il voyait que Yaakov devenait gagné sur quelque chose, il lui changeait le contrat. Bon. C'était effectivement un grand malfrat. Et après plus de 20 ans, 22 ans, je crois, Yaakov sort de chez Lavan, et là, il a un combat avec un ange, complètement mystérieux cet épisode-là, l'ange d'Esav. Et à ce moment-là, on lui donne le nom d'Israël. Voilà la vie de Yaakov jusqu'au moment où on lui donne le nom d'Israël. Le nom d'Israël, on lui donne après qu'il ait passé l'épreuve la plus importante. C'est-à-dire d'avoir vécu pendant 22 ans avec des malfrats et d'être resté honnête. Et d'être resté droit, de n'avoir jamais enfreint un contrat. Alors il a rusé, on a le droit de ruser. On a le droit de faire des choses qui sont qui rentrent dans les cases du contrat et de ruser pour les mettre à notre avantage. On a absolument le droit de le faire. Il faut bien étudier les cas. Mais en tout cas, le moment où on le nomme Israël, qui va être notre nom d'aujourd'hui, d'accord, notre peuple, c'est au moment où il est sorti de cette étape-là. Après, il va y avoir d'autres épisodes, il va y avoir Yosef qui va être vendu, etc. Mais non, ça, avant, on lui a déjà donné le nom d'Israël. Ça y est, tu as accompli ta mission, tu t'appelles Israël. Qu'est-ce quoi le nom Israël? C'est le nom Yachar Kel. Yachar, ça veut dire droit, Kel devant Dieu. Droit devant Dieu. Oups, hop, j'attrape. Il est fatigué. Donc voilà, notre ancêtre Yaakov, c'était ça. C'était quelqu'un qui essayait d'avoir une droiture permanente. Permanente, permanente. Je vais finir avec un dernier sujet. Dans le Talmud, il y a une Gemara qui dit comme ça. Amar Rava, c'est dans Maseret Shabbat, Beshach et Marnissim Adam Ledin, Omrimlo. Au moment où on fait rentrer un homme au jugement céleste, après sa mort, il y a un jugement. On lui pose maintenant des questions. Première question qu'on va poser, c'est quoi ? Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce avec droiture ? C'est la première question qu'on pose en arrivant là-haut. Quoi ? Mais moi, j'ai étudié la Torah, j'ai fait plein de choses, j'étais à la synagogue tous les jours. Tous les jours, j'étais à la synagogue. Pour que tu arrives en haut, tu me saoules encore avec... je pense avoir un peu plus de respect. Mais encore, on me parle d'argent, on parle de commerce. Bon, c'est bon, je me suis occupé, il fallait bien que je gagne ma vie. Non, non, première question. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce avec droiture ? Emuna, ça a deux sens. Ça a un sens de droiture et ça a un sens de foi. Foi en Hachem. Finalement, ces deux sens, ces deux traductions, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que l'on vole ? Je dis on parce qu'on peut tous concerner. Pourquoi est-ce que l'on triche ? Parce qu'on n'a pas confiance que Dieu nous amènera ce qu'il faut quand il faut. C'est un seul sujet. Le sujet de la Emouna et le sujet de vouloir tricher sont 100% connectés. Si je comprends que Dieu m'envoie tout, je n'ai plus besoin de tricher. Je ne triche pas. C'est Dieu qui décide de l'issue du rendez-vous. Je n'ai pas besoin de mentir. Si ce contrat doit arriver sans mensonge, il arrivera. S'il ne doit pas arriver sans mensonge, il arrivera. C'était la première question. La deuxième question, c'est « Kavata itim la Torah ». As-tu fixé des moments d'étude à la Torah ? Important cette question. As-tu fixé des moments d'étude ? Il n'est pas écrit combien de temps as-tu étudié ? Combien de chapitres as-tu étudié ? Ce qu'on nous demande, c'est de fixer en permanence, chaque jour, dans la Torah, c'est chaque jour, il faut fixer des moments d'étude. Et pareil, ces deux sujets sont liés. C'est que pour faire du commerce et être droit dans le commerce, il faut étudier. Tous les sujets dont je vous ai parlé là avec l'histoire de la cuisine, franchement, on serait tous gourés si on n'avait pas appris ça. On se gourre. On se dit, moi j'ai parlé de ça avec quelqu'un ce matin, il me dit non, moi j'aurais préféré qu'on ne me le dise pas parce que ça aurait peut-être vexé, etc. Je dis non, mais là on n'est pas. Il ne faut pas vexer la personne, etc. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Donc il faut étudier. Et c'est ça la force de l'étude. L'étude, on va dire, oui, l'étude de la Torah, c'est faire un petit tidra sur la parashat à chaque fois, c'est raconter une petite histoire sympathique, etc. Non, 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 l'étude, c'est quoi ? C'est aller rechercher dans la Torah des leçons qui vont m'aider quand je sors, quand je suis à l'extérieur, qui vont m'aider sur ma manière de marcher, on va apprendre pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi, on va apprendre parce que c'était le plus humble de tous les hommes. Plus humble ? On ne peut pas être humble quand on est un dirigeant. C'est le plus grand dirigeant de l'histoire. De l'histoire juive, et c'est le plus humble. Ça ne marche pas. Nous, on a besoin de quelqu'un qui a une poigne. Bon, aujourd'hui, avec Macron, maintenant, on se demande. Mais en tout cas, on a une vision qui est différente. Donc, on a besoin d'étudier. On a besoin d'étudier. Et en gros, donc, ce que je vous explique, c'est que finalement, et ça va être ma conclusion, on a besoin dans toute notre vie, la vie d'un juif c'est quoi ? C'est à tout moment, effectivement, de choisir donc entre le bien et le mal, comme j'ai expliqué. On doit tout faire, manger, boire, dormir, toujours dans une intention de pouvoir faire le bien. Il y a une mitzvah d'aller se coucher tôt quand on est employé d'une société. Il est interdit de se coucher tard. Parce que si on se couche tard et que le lendemain on fait mal son travail, on est un voleur. Mon employeur m'a recruté et me paye pour faire un travail de quelqu'un qui est en forme. D'accord? Il y a une mitzvah de ce que j'ai dit. D'ailleurs, si je prends des sujets de l'employeur, on a un énorme problème avec le sujet des smartphones. Donc, en gros, ce que je vous conseille, c'est soit parler avec votre employeur de la règle d'usage, à quel moment j'ai le droit de voir mon WhatsApp et de voir mes SMS et de voir des trucs, ou d'éteindre votre téléphone et vous dire que je ne l'utilise pas pendant le travail. Clairement, parce que vous pouvez être en situation de vol permanente. Permanente. Ah, je sens qu'il y a des gens concernés. On est tous concernés. Tous concernés. Moi, j'ai même plus de smartphone. Moi, franchement, sur le sujet de smartphone, Facebook, en ce moment, je suis en train d'étudier le sujet de l'achonara sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, et le sujet de l'achonara lié à ce truc. Franchement, on est très mal barré. Je vais bientôt sortir un truc là-dessus. Ça va très mal. Donc, on doit faire absolument tous les Shem Shamaim. Là, je vais aller me coucher parce que je vais bien faire mon travail demain pour ne pas voler. Je vais aller faire du sport pour être en forme et être en bonne santé pour avoir à faire mon service de la Torah. Mon service, c'est ma vie de famille, ma vie, mon travail, etc. Tout. En permanence, quand je fais quelque chose, je ne réfléchis pas à moi. Allez, je vais me faire un kiff à Ibiza. D'accord? C'est, je vais réfléchir à comment je vais vivre pour Hachem, pour devenir la personne qu'on attend de moi. Et ce qui est intéressant, ce qui est magnifique, c'est qu'on a tous un parcours qui sera différent. Nous avons tous des visages différents, d'accord? Nous avons tous eu des réponses différentes quand l'ange est venu poser la question à Dieu avant notre naissance. Et donc, on aura tous des épreuves absolument différentes. Donc, il faut faire très attention quand on essaye d'avancer dans la Torah, de ne pas aller voir comment son copain est en train d'avancer. Ou comment voir... Enfin, si, s'il avance très vite, oui, on peut aller le suivre, ça peut être pas mal. Mais le Rambam explique que le derer briato chez la dame, liot nimshach, d'être attiré par son entourage. On est attiré par son entourage, on est attiré par les gens de son pays. Et donc, le Rambam, il est en train de dire, tu dois passer du temps avec des chachamim, avec des tzadikim, des gens bien, et tu dois t'éloigner des rechaim. Et s'il n'y a pas de tzadikim dans le pays où tu vis, tu vas vivre dans une forêt, tu vas vivre tout seul. Parce que toi, tu as besoin de progresser. Tu n'as pas le temps là, de te faire embobiner par la cousine, par ta bande de copines, avant le copain, etc., etc. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Moi, je vais vous dire vraiment mon expérience. Je suis arrivé à tout ça. Je vous dis, je viens d'une famille où mes parents n'étaient pas Shomer Shabbat. Baruch HaShem, on a évolué. À ma bar mitzvah, je suis devenu Shomer Shabbat. Avant, j'avais la télévision allumée le vendredi soir pendant le kiddush. D'accord? Comme beaucoup. Et au fur et à mesure, on a évolué, parce que j'avais la chance que mes parents vivaient, on avait une vie de famille très fermée. Donc au final, quand on avançait, il n'y avait personne qui était en train de me dire « Ah, oh, t'exagères d'être le religieux de service ». Non, on avançait. Effectivement, et à un moment, effectivement, même quand j'ai commencé à avoir des amis, j'ai dit « J'en ai absolument rien à faire de ce qu'ils pensent. Moi, je suis en train de voir ce qu'est en train de me donner la Torah, etc. Et je suis en train de voir la beauté de tout ça. Allez, j'avance tout seul. Et j'embarque des gens avec moi pour avancer s'ils veulent. » Donc voilà, donc on a une magnifique mission d'être juif 24 heures sur 24, et pour ça, effectivement, donc il faut étudier et avoir en tête et pleine conscience qu'on a des belles choses à faire dans ce monde. Merci. Merci beaucoup. Ah, il est déjà servi, hein, merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nehiyah bidvaro. Ouais, ça fait peur. Pour ça que j'ai précisé, attention. La ruse. Donc la question c'est, vous avez dit que de temps en temps on a le droit d'utiliser la ruse. Donc on parle de quel genre de ruse? Le terme ruse en général, ça a l'air d'être justement de la triche et des choses comme ça. J'ai un contrat qui est en train de me dire que, que si des agneaux naissent, les tachetés vont aller chez telle personne, vont être pour moi, et les rayés vont aller chez l'autre, chez mon patron. J'ai le droit de faire en sorte... Est-ce qu'il y ait plus de tachetés? J'ai le droit de faire en sorte. Parce qu'il n'y a absolument rien qui empêche, effectivement, ce partage. Le partage a été défini. Le contrat définit bien les choses. Effectivement, à ce moment-là, j'ai le droit de faire un certain travail pour que, effectivement, les choses soient aussi à mon avantage. Je dois faire mon travail, évidemment, mais j'ai le droit de faire les choses à mon avantage. Franchement, c'est un sujet super touchy pour que on puisse maintenant aller rentrer dans plein de cas particuliers. S'il y a une question particulière de ruse, il faut réfléchir. Mais en fait, l'Agmara dit, sois rusé avec les rusés. D'accord? C'est comme ça qu'elle dit. Maintenant, il faut faire très gaffe, parce que c'est vraiment tout le contraire de ce que je veux dire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'exception, donc on va rester sur le reste. On va éviter la ruse, mais et quand il y a des exceptions, si vous voulez, on en parle, je vous donne mon moyen. Oui. Alors, donc la question c'est est-ce qu'on doit, en tant que commercial, on ne peut pas dire tous les défauts d'un produit. D'accord ? On a le droit de mettre en valeur des avantages d'un produit. D'accord ? Maintenant, si on se rend compte que la personne en face pense que le produit fait quelque chose alors qu'il ne le fait pas, à ce moment-là, on est obligé de lui dire. Je prends un exemple. Malheureusement, aussi dans notre pays bien-aimé, il y a maintenant des sociétés d'assurance un peu bidons qui vont aller vendre des assurances maladie et les gens appellent et font croire qu'effectivement la personne va être remboursée. Et de temps en temps, il y a une personne qui appelle en disant « Ah bah ça tombe bien, j'ai le cancer, au moins ça me remboursera mes frais. » La personne dit « Ok, je vous envoie le contrat. » On va dire « Oh, je n'ai jamais dit que ça allait rembourser ça. » Non, 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 non. Maintenant, on voit qu'elle a compris la chose, etc. Là, on a un problème, on va devoir dévoiler. On va devoir dévoiler. Attention, non, non, non. L'autre chose, il faut que vous soyez synchronisé avec le client. Si vous pensez vraiment vendre un produit que vous-même, vous n'achèteriez pas si vous étiez le client en face, c'est le meilleur paramètre que j'ai trouvé pour savoir si on fait les choses bien. Si vous-même, vous ne serez pas acheteur du produit si vous étiez à la place en face, vous ne pouvez pas le vendre. C'est un bon critère à réfléchir tout le temps. Du coup, vous ne vendrez pas à votre mère, vous ne vendrez pas à votre cousine, vous ne vendrez pas aux gens que vous aimez. D'autres questions ? Est-ce qu'on a, donc la question, c'est est-ce qu'on a une responsabilité si on est patron de start-up et avons levé des fonds à une certaine valeur? Si effectivement, finalement, la valeur n'est pas celle-là, est-ce qu'on a une certaine responsabilité? Tout investisseur sait très bien qu'il a une part de risque dans son investissement. S'il ne le sait pas, il est interdit de le faire investir. Moi, je suis en train d'investir à titre perso dans une société, ce que je fais pas rarement que j'investis à titre perso. Je suis en train d'investir en ce moment dans une société et le cofondateur, le directeur financier m'a appelé il y a deux semaines en me disant « Jérémy, sache qu'il y a un risque qu'on se plante. » Il me l'a dit. « Je veux juste te dire, sache qu'il y a un risque. Donc, je veux absolument que tu le saches. » Je lui ai dit « Oui, mais t'inquiète pas, il ne savait pas exactement ce que je faisais dans la vie et mon expérience, donc ce n'était pas grave. » Et je lui ai dit « Bon, regarde mon CV. » Bon, il a compris. Et après, et là, effectivement, on a le droit de faire la transaction. Si vous allez voir votre grand-mère, vous dites « Regarde maman, mamie, je suis en train de monter une super entreprise, mets de l'argent, tu mets 100 000, ça sera 1 million bientôt, voilà, super !» Non, ça, on n'a pas le droit. Pardon ? Mamie, elle peut mourir, mais bon, il y a les héritiers à peu près. Vous volez les héritiers. Non, non, il y a un problème. Donc toujours, le sujet, c'est la synchronisation avec la personne qui est en face. Ce qui est complètement à l'opposé du monde des affaires dont on l'entend en général. D'accord ? Et moi, personnellement, quand j'étais en train d'investir dans des sociétés, j'étais ce qu'on appelle « fair ». On a un sujet de « fairness » dans le monde de l'IT, etc. On fait en sorte d'être « fair ». C'est quand quelqu'un me proposer, par exemple, d'investir dans sa boîte à une valeur très basse, parce qu'il connaissait absolument rien. Je lui disais, regarde, c'est pas bien pour toi. Tu auras l'air ridicule quand le prochain investisseur va arriver. Bien, tu vas augmenter un peu la valeur et voilà, le prendre un peu moins. Et voilà, comme ça, ça sera, les choses vont être bien. Je faisais réellement parce qu'effectivement, pareil, moi, je sais que j'ai HM qui va de toute façon définir le résultat. Donc, je veux que les choses se passent bien. Je ne suis pas là pour aller tromper l'autre, pour aller l'arnaquer, pour aller l'escroquer, etc. Donc, maintenant, effectivement, l'investisseur, il sait très bien qu'effectivement, une société peut avoir de la valeur ou pas. Et il prend un risque. Et donc, la valeur, finalement, est très, très relative. Très relative. Oui.
En se disant que finalement, tout est vient de Dieu, comment on fait pour garder l'énergie de travailler beaucoup pour réussir? Parce que finalement, c'est évident que c'est deux.
C'est une super question. Donc, si tout vient de Dieu, pourquoi, comment on arrive à passer, à avoir la force de travailler? Puisqu'on se dit, de toute façon, tout vient de Dieu, alors on ne travaille pas. C'est un paradoxe qui est dans le monde juif. On a une obligation de Ishtadlut. On a deux obligations. On a l'obligation de prier pour notre parnassa, etc. La prière est très importante. On dit que les portes ne s'ouvrent pas si on ne demande pas. Et deux, on a une obligation de créer le keli, l'ustensile qui va recevoir cette bracha. Donc, si je veux gagner effectivement temps, je dois faire le travail qui permet de gagner potentiellement ce temps. D'accord? D'accord? Et donc, mais c'est effectivement, il peut se passer, c'est ce que je remarque autour de moi, quand je croise énormément de gens riches, de gens qui sont devenus riches, en ayant passé quelques heures sur une transaction il y a 15 ans, et avoir fait une super affaire, ils ont gagné plus que peut-être tout le monde là, additionné sur les affaires en immobilier, ou en etc. Mais on a une obligation de faire ce qu'il faut pour donner. Il y avait, après, c'est à plusieurs niveaux en fonction du niveau de l'émouna qu'on a. Il y avait un rab, le rab, je crois que c'est le rab Israël Salanter, je crois que c'est lui, ou le rab Kanievski, le père du rab Kanievski, Stapeler, qui achetait un billet de loterie. C'est la seule chose qu'il faisait. C'est ça, l'état de doute. Et voilà, maintenant, si Dieu veut me donner, il me donnera par là, sinon. Alors attention, pour les Sfaradim, on ne peut pas jouer normalement au loto, je précise, mais bon, c'est un sujet complexe. C'est une marque loguette dans la main. Je précise, mais pour dire un peu le niveau. Il y a des gens, effectivement, je connais des gens, beaucoup, qui travaillent une heure par jour et qui gagnent plus que les gens qui travaillent tout le temps, qui courent dans tous les sens. Mais quand on sait ça, effectivement, après, on va chercher, on va dire, bon, comment je peux faire pour créer le keli en le moins de temps possible, et après, je me remets à la maison. C'est ce qu'on fait. On passe notre temps à mener braque, on est la bande de gens qui avons la Emouna, etc., on passe notre temps à faire ça. On passe notre temps à tel point que des fois, quand on perd un contrat, on dit, super, on n'est pas en train de dire, ah mince, j'ai perdu, je sais pas, 200 000 euros ou je sais pas quoi. Je dis, ah tiens, super, ça, moi, je vais pouvoir étudier une heure de plus par semaine ou deux heures de plus. On peut devenir un peu fou, mais au final, ce qui compte, c'est d'avoir de quoi manger, de quoi vivre et de où habiter. C'est la seule chose dont on a besoin, finalement. Shlomo Ameler dit dans Michelet, éloigne-moi de la richesse et de la pauvreté. Il dit, si tu me rends riche, je t'oublierai. Et si tu me rends pauvre, je viendrai à voler. Donne-moi ma part. Michelet, c'est la sagesse de Shlomo Ameler, qui était, selon Chazal et réellement, parce qu'on voit que c'est magnifique, était le plus sage de tous les sages. Ne me rends pas riche. Attention, j'ai peur de devenir riche. Donc, voilà. Si je tiens. Allez-y. Ouais. Alors, je vous explique. Bon, c'est un cas qu'il faut étudier dans le détail. Donc moi, j'ai fait des introductions pour vous expliquer que ce concept existe. Donc on va pas sortir avec la halakha précise comment. Donc là, non, la question, c'est, on a parlé de la fixation des prix. Donc il dit on doit s'aligner au prix du marché. Donc effectivement, en général, on doit s'aligner au prix du marché avec plus ou moins un sixième. D'accord ? Si on vend à un juif. Si on vend à un non-juif, il n'y a pas de problème. Pas parce qu'on a le droit de le tromper, parce que chez les juifs, chez les non-juifs, il n'y a pas ce concept-là. D'accord ? Et la Torah n'a jamais mis chez les non-juifs, il y a la responsabilité. Mais nous, on a, vis-à-vis effectivement d'un juif, il y a un sujet qui s'appelle Onaha, qui est celui-là. Effectivement, on ne peut pas laisser penser qu'il est en train de faire une bonne affaire alors qu'il n'est pas en train de faire une bonne affaire. Ah, si on ne sait pas s'ils sont juifs. Ouais. Bon, en général, de toute façon, on ne va pas faire de prix, on ne va pas faire le prix juif et le prix pas juif. Hein. Donc, de toute façon, on est censé. Non, on ne va pas commencer à faire de prix, c'est pas l'objectif. Non. Là, on est juste en train de dire, quand je dis juif, pas juif, c'est en Israël et en France, on va dire. Mais on n'est pas là pour faire de plein. Mais c'est un sujet, si vous lisez l'hébreu, il y a des très beaux livres, il y a quelques livres en anglais qui vous expliquent ça. Vous êtes dans le photovoltaïque ?
Non.
Il y a des problèmes dans le photovoltaïque aussi. Hein. Merci à tous. Je vous donne deux informations. Vous avez sur mon blog berevi.org, vous avez une liste de plein de livres et de sites internet qui parlent de tous ces sujets. Il y a un site magnifique en anglais qui s'appelle Business Halakha qui traite de l'ensemble de ces sujets. Et vous avez des listes de livres en anglais, en hébreu et en français. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur ma newsletter là-bas et en fait qui vous tiendra au courant à la fois d'autres événements que je pourrais donner, mais aussi de temps en temps vous enverra de quelques-unes des trouvailles que j'ai pu trouver comme celles dont je vous ai parlé ce soir. Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.